Chers amis, frères et sœurs, bonjour. De ce temps-là, avec le vide-grenier de la rue Paul-Bert, on pourrait dire « Bienheureux les piétons, car ils arriveront à l'église ». Ça va, vous avez pu vous garer, puisque vous êtes là. Vous avez pris le transport en commun, qui est un transport sûr. Chers amis, nous sommes entrés dans le temps des foires à tout, des vides-greniers, des courses, Touraine court, Touraine nage, mais cela ne va pas vous décourager pour entendre l'Évangile le dimanche après-midi. Vous êtes là, des gens n'ont pas pu venir, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je vais vous demander de vous lever à votre place et on va prier celui qui est descendu du ciel par le sein d'une vierge et qui a connu la pauvreté, l'humiliation, la souffrance, la mort pour nous faire remonter vers son ciel. Prions Dieu. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as cherché et tu nous as trouvés. Tu nous as pris par la main quand nous étions à terre, jetés au fond du fossé, méprisés, abandonnés, devant des situations professionnelles, familiales, impossibles à démêler, devant nos propres fautes, impossibles à démêler. Et toi, tu es descendu, tu nous as pris par la main, et tu as défendu notre cause, tu nous as ressuscités. Permets que par la parole de ce dimanche, nos cœurs ressuscitent, se réjouissent, te fassent confiance. Au nom de Jésus, amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, nous allons parler en ce jour de partir à la rencontre du Christ. Partir à la rencontre du Christ. Je vais faire une lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, car sans l'Évangile, nous n'avons rien à dire. Nous ne savons rien sur Dieu sans l'Évangile. Nous ne savons rien sur notre propre existence, notre avenir, notre vie éternelle. On n'a rien à dire. Mais avec l'Évangile, on a beaucoup à dire. Donc, Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire ?» Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Et à l'instant, il se leva et en leur présence prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. La guérison d'un paralysé, handicapé. L'histoire se passe à Capernaum, très jolie petite ville de pêcherie au bord du lac de Tibériade. Tibériade en l'honneur de Tibère, l'empereur romain qui a conquis cette grande partie du Proche-Orient à son époque. Et là, il y avait cette petite ville de Capernaum qui a été le carrefour de beaucoup de miracles, de beaucoup de prodiges de la part de Jésus de Nazareth. Et il était à la maison. Un évangile dit « à la maison ». Quand on dit « je suis à la maison », ça veut dire que je suis chez moi. Et Jésus était dans sa maison. Je pense qu'il louait à Capernaum une maison où il vivait. Il n'habitait pas toujours avec Marie, Joseph, il habitait au bord de la mer, à Capernaum. Et la maison était peut-être un peu grande quand même, puisqu'elle était remplie d'hommes religieux, d'hommes du temple, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, qui venaient de toutes les régions. Et la maison était remplie, et pendant que Jésus parlait, il y avait des guérisons. Jésus parle et il agit. Il dit et il fait, il promet et il accomplit. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai hier, ce n'est pas un Dieu muet, pas un Dieu infirme, c'est un Dieu qui agit par amour. Il y avait des guérisons. Mais je me suis posé la question, est-ce que cette histoire belle est réservée seulement aux hommes de la religion qui sont tranquillement assis dans la maison et qui, entre nous, prennent toute la place et qui empêchent les gens d'entrer dans la maison. Est-ce que la foi est réservée à cette élite qui est là, qui bloque le passage parce qu'il y a un malheureux handicapé qui ne peut pas rentrer? Est-ce que c'est réservé qu'à eux? Où sont les pauvres? Il n'y en avait pas dans la maison. Où sont les boiteux, les souffrants, tous ceux dont la vie est bloquée, ceux dont la vie s'est cassée, qui ont joué avec la vie et elle s'est cassée dans leurs mains. Où sont-ils? Il n'y avait que des religieux, des hommes bien, mais qui surveillaient les paroles de Jésus pour surprendre peut-être un petit défaut, un petit détail, pour l'attaquer, le juger, le critiquer. Où sont-ils les pauvres? Est-ce qu'il y aurait sur la terre des peuples oubliés? Est-ce que Dieu aurait oublié certains peuples de la terre, certaines personnes qui sont marginales, qui sont peut-être nées dans des foyers difficiles, avec des conflits, des péchés? Est-ce que Dieu aurait oublié une personne sur la terre? On a pensé parfois, puisqu'on n'avait pas d'accès auprès d'eux, que le peuple tzigane avait été comme oublié. Mais voilà que maintenant, ils sont des centaines de milliers dans le monde qui sont devenus chrétiens. Personne n'est oublié. L'Évangile dit que les extrémités de la terre verront sa lumière, que tous ceux qui sont dans l'ombre de la mort verront, que les habitants des îles entendront parler, la Réunion, la Guadeloupe et d'autres, et que ceux qui sont captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'il y a des gens enchaînés qui se font tellement de problèmes eux-mêmes et qui sont incapables de se libérer, ceux qui sont dans les chaînes entendront, verront le Fils de Dieu venir les aider. La Bible dit que le Christ va attirer tout ce monde. Personne ne sera oublié. Il va les attirer comme un aimant attire le fer. Il va les éclairer. Jésus, c'est la lumière qui éclaire tous les hommes. Tous les hommes sont touchés par une grâce prévenante, une grâce qu'on a depuis la naissance, qui nous attire, à moins qu'on résiste, bien sûr. Vous avez cette liberté de dire non à la vie, mais vous avez la liberté de dire oui à la vie. Le Christ nous attire. Il disait, « Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes, les mécréants, les bons, les justes, les truands. J'attirerai tous les hommes à moi. » Et il a été élevé à la croix, marque de son amour. C'est l'amour qui attire. Et il a été élevé à l'ascension quand il est reparti dans le royaume de son Père. Là-haut, il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui nous attend. Il nous attire. Dans l'univers, tout s'attire. Les planètes s'attirent. Le soleil autour duquel nous tournons depuis déjà pas mal de jours, le soleil attire, mais il y a un équilibre. La Terre, en tournant, ne se fracasse pas sur le soleil, heureusement. Et toutes les planètes tournent toujours autour d'une étoile, parfois qu'on ne voit même pas. Il y a une étoile et les planètes tournent autour et ne savent pas que si elles tournent, c'est parce qu'il y a une étoile qui est là et qui les fait tourner. Ainsi, mes amis, nous tournons tous autour du Christ, qu'on ne voit pas parfois, qu'on ne connaît pas, on ne veut même pas entendre parler, mais on tourne autour de lui. Parce qu'il est dit qu'il soutient tout, tout subsiste par lui, il tient notre souffle de vie. On tourne comme en orbite autour de quelqu'un d'extraordinaire, avec un amour à déborder, Jésus, le Fils de Dieu. Et tout est dans l'équilibre quand on tourne autour d'une planète, autour d'une étoile, c'est l'équilibre, hein. Ça ne bouge pas depuis des milliards d'années. Tout est dans l'équilibre. Et puis un jour, dans notre vie, on tourne autour du Christ, puis il y a un événement qui ne va pas. On perd son mari, on perd un enfant. Un événement qui déboussole. On perd confiance, on perd son travail. Et quand il y a cet événement, eh bien, on est attiré d'une façon nouvelle par le Christ, pour qu'il répare notre vie. L'événement nous propulse, nous projette vers Dieu lui-même. Il y a des événements dans la vie qui nous obligent à chercher du secours. On ne l'a pas en nous. Les gens boivent pour trouver du secours, pensant que dans l'ivresse, on verra moins bien, on pensera moins bien, on réalisera moins, mais cela n'est pas du secours. Il y a des événements qui nous obligent à chercher à l'extérieur de nous un secours que Dieu seul peut nous donner. C'est pourquoi le paralysé, qui a peut-être dû essayer certaines médecines, certains exercices, il a résumé en disant: il ne me reste qu'une solution, c'est d'aller à Capernaum où il y a un jeune rabbin qui fait des miracles, qui annonce la bonne nouvelle et qui guérit même les paralysés. Il est parti à la rencontre du Christ. Partir à la rencontre du Christ. Et puis lui, ce qu'il voulait, ce n'est pas rien. Il voulait se mettre sous ses regards. Il ne voulait pas se noyer dans la foule. Quand on est dans la foule, on ne sait pas si on nous voit. Dans la foule, en fait, on ne voit rien, on n'est pas vu. On se pourrait se dire, est-ce que Dieu nous voit? Lui, il voulait être sous ses regards, là. J'ai failli dire sous son nez, devant lui. C'est un peu prétentieux quand même. De toutes les façons, nous sommes toujours sous ses regards. Du matin jusqu'au soir et la nuit, le Seigneur a ses regards sur nous. David disait il y a longtemps, « Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assois, tu sais quand je marche, tu connais toutes mes pensées. Où irai-je loin de toi ? Où vais-je me cacher loin de toi ? Tu vois tout. Il voit où vous en êtes. Il voit vos larmes cachées. Il voit votre chagrin, votre solitude, votre deuil. Il voit ce que vous vivez à chaque instant du jour ou de la nuit. Il voulait être sous les regards pour être sûr qu'il n'échapperait pas à Jésus. Alors il n'a pas pu rentrer. Est-ce facile de partir à la recherche de Jésus ? Oui, puisque Dieu n'est pas loin, il est près de chacun. Mais quand je vois l'Évangile, quand je vois dans ma propre vie, dans la vie des personnes que je connais, je vois que ce n'est pas si facile. Comme s'il y avait un esprit mauvais qui barrait la route, qui empêchait. Jésus disait, c'est comme les oiseaux qui mangent la semence qui est tombée en terre. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça va bien aujourd'hui et demain, ça n'ira pas. Il y a toujours un événement qui nous fait trébucher, qu'on doit surpasser, qu'on doit vaincre. Oui, mes amis, c'est difficile parfois, mais toutefois, le Seigneur nous porte dans la recherche puisqu'il nous attire à lui. Le Seigneur connaît toutes choses et il savait pendant qu'il parlait à ces messieurs de la religion, il leur annonçait l'Évangile, il y avait des gens qui étaient guéris. Il savait, puisqu'il connaît le fond de nos pensées, que des gens étaient en train de monter sur son toit. Une nuit, chez nous, chez moi, une nuit, une jeune fille est montée sur notre toit. C'est un peu de la folie quand même. Elle était ivre. Dans l'ivresse, on peut commettre les pires erreurs contre les autres, contre Dieu, contre sa vie, contre son corps, son âme. Et cette jeune fille est montée sur notre toit. J'ai fait venir la police, pas pour lui faire de la peine, mais pour sauver sa vie. Et là, ce n'était pas la même chose, parce que les toits sont plats dans ce pays. Il n'y a pas de la pluie comme en Bretagne. Mais Jésus savait que quelqu'un montait sur son toit. Et ce quelqu'un, c'était un handicapé porté par 4 amis. Il a trouvé quand même 4 amis. Combien avez-vous d'amis ? Dites un chiffre entre 1 et 200. Vous êtes plus près du 1 que du 200. Il avait 4 amis qui ont conduit Jésus, qui ont conduit cet homme vers Jésus. Jésus le savait. Mais il n'a pas dit « Arrêtez, prenez pas de risques, ne tombez pas du toit. Arrêtez, je sais que vous avez une bonne intention. Ce n'est pas la peine de continuer à démolir mon toit. » Parce qu'il commençait à enlever les tuiles. C'est le mot en grec, les tuiles. Ils enlevaient les tuiles pour descendre le paralysé par le toit. Il n'a pas dit « Remontez, ça suffit, je vois que vous avez confiance. » Il les a laissés faire. Et le paralysé est descendu, tenu par les cordes, par ses 4 amis, sous les regards de Jésus. Parce qu'il faut une rencontre personnelle avec le Christ. Il ne faut pas seulement avoir une intention, un désir, un rêve, une pensée. Il faut nous-mêmes monter et descendre. Monter sur le toit et descendre vers lui. Comme Abraham a eu une rencontre avec le Dieu de gloire en Mésopotamie il y a 4000 ans, c'est-à-dire en Irak aujourd'hui. Comme Moïse a vu sur le mont Sinaï un buisson qui ne se consumait pas et Dieu était dedans, en Égypte, il y a plus de 3000 ans. Comme l'apôtre Paul, révolté contre le Christ, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, personnellement, en Syrie. Il nous faut la rencontre, pas celle que nous aurons seulement à la mort, mais celle qui va construire la vie, qui va nous permettre de mettre pierre sur pierre et de continuer à monter vers le Seigneur. Dieu n'est pas dans une accumulation de livres qu'il faut lire. Dieu n'est pas dans des cérémonies à laquelle on participe, je dirais, sans la vivre, sans les vivre. Dieu est dans une rencontre. Dieu est dans une relation où l'on a un émerveillement, où l'on entend une parole, où on voit un geste, un regard de Jésus qui nous fait partir dans la vie. Sous ses regards, là, il est là couché sur son lit, à quelques centimètres de Jésus, et il regarde Jésus, et Jésus le regarde. Mes amis, nous existons par un regard. Le regard de nos parents qui s'est posé sur nous quand nous étions enfants, petits, jeunes. Heureux les enfants dont le père peut les regarder avec amour. La mère la présente avec amour. Nous existons par un regard quand nous arriverons à la fin de notre vie, quand on a des enfants autour du lit qui nous regardent, qui nous prennent la main. Nous existons par un regard, celui de Jésus qui se pose sur nous, un regard d'amour, un regard de réconfort, de paix. Jésus nous regarde. Il a vu la souffrance du peuple juif en Égypte et il dit, j'ai vu la souffrance et je suis venu pour le délivrer de la maison de servitude. La foi, ce n'est pas un coup de tampon sur une facture en disant, vu, payé. La foi, c'est un amour personnel de Dieu et c'est une démarche personnel de nous. C'est ça la vie. Un amour de Dieu, un amour de nous. Une rencontre. Ils l'ont placé sous ses regards et il a vu Jésus face à face. Mais regardez comme cela a été difficile. Parce que je veux vous le dire pour que vous sachiez bien quel est le combat que vous menez et comment Dieu vous cherche. La Bible dit, le Dieu de ce siècle, le Dieu qui aujourd'hui dans le monde produit les guerres, les divorces, les cassures, les ruptures, les larmes, les chagrins, il y a un Dieu qui fait ça, qui s'appelle le diable. Et ce Dieu du siècle, comme dit Jésus, il aveugle l'intelligence pour qu'on ne voit pas, pour qu'on dise, bon, il n'y a rien. On a envoyé dans l'espace, il y a longtemps de cela, Gagarine, un russe, le premier qui est monté un peu plus haut que les nuages. Et quand il est revenu, il a dit, « J'ai pas vu Dieu. » Un petit garçon a dit, « Il n'a pas donné le rendez-vous à Dieu où il fallait. » Parce que le rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas au-dessus des nuages, c'est dans notre cœur. Oui, mes amis, le prince de ce monde nous divertit pour qu'on ne voit pas la splendeur de l'Évangile. Pascal, un philosophe français, disait « Le divertissement nous empêche, nous évite de penser à la mort et de penser à Dieu. On s'étourdit pour dire « Il n'y a rien, je suis rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. » On s'étourdit. Mais demain, face à face, nous devrons rendre compte à celui qui nous a donné la vie. Alors, à cause de tout cela, de tous ces gens égoïstes qui ne bougent pas, le paralysé n'a pas pu rentrer, à cause de toute cette foule qui remplit la maison, il n'a pas pu rentrer. Moi, je pense à la foule de nos pensées, à la foule de nos chagrins, de nos plaisirs, de nos désirs, toute une foule en nous de choses, de pensées qui ferment la porte à Jésus, qui nous empêchent d'entrer là où est Jésus. Jésus a dit, je suis venu pour que les captifs soient délivrés, parce que naturellement nous sommes esclaves de quelque chose, parfois de quelqu'un. Je suis venu pour que ceux qui ont le cœur brisé, sois guéri. je suis venu pour que ceux qui sont aveugles du cœur soient guéris. Naturellement, je veux dire par notre nature, on est captif, on est aveugle, on est brisé et on n'a plus la force d'aller vers Jésus. Mais Jésus casse toutes ces chaînes-là pour qu'on puisse aller vers lui, descendre sous ses regards et dire « Seigneur, je suis paralysé, ma vie est difficile, guéris-moi Seigneur, guéris-moi. » Ils montèrent sur le toit et ils ont descendu là, le paralysé, et ça pour moi c'est la foi. C'est la foi qui agit, la foi qui dit « Je peux par le Christ qui me donne la force ». Mais s'ils ont fait cela, c'est aussi par l'amour du Christ qui les a attirés. Quand vous serez chrétien, mes amis, vous réaliserez que année après année, il a suivi vos pas. Année après année, il vous a porté, il vous a conduit, il vous a convaincu tout doucement, il vous a ouvert les yeux. C'est un travail de bijoutier, d'orfèvre, délicat. Il a pris soin de vous sans vous bousculer, sans vous forcer. Personne ne se plaindra de Jésus qui a forcé quelqu'un. C'est quelqu'un qui appelle, qui attire. Il a attiré le paralysé sur le toit et il l'a fait descendre au niveau de ses yeux. Un jour, il nous attirera dans la maison du ciel. Nous rentrerons là-haut dans son royaume parce que nous sommes appelés à vivre beaucoup plus que de télévision, de frigidaire, d'ordinateur et puis de technologie. Nous sommes appelés à vivre dans un autre monde, le monde de Dieu. Alors ils ont descendu le paralysé par le toit, par une ouverture. Il faut qu'on fasse une ouverture à Dieu. Et ce n'est pas facile, toujours, de faire l'ouverture de son cœur, l'ouverture de la porte de son cœur. Cette porte qu'on n'ouvre pas souvent, peut-être jamais. Il y a des verrous à faire sauter, il y a des blocages, il y a des chagrins à dépasser, il y a des péchés à régler, il y a parfois du désordre à remettre bien d'aplomb. Il faut qu'on ouvre cette porte et qu'on dise « Seigneur, regarde ma vie, comme elle est négligée ». Il faut qu'on dise cela, Jésus. Il faut qu'on ouvre l'ouverture. Nous voyons que c'est difficile de mettre en lumière, à la lumière, tout ce qui est en nous qui bloque. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de mal à mettre sur Internet toute leur vie privée. Sur Facebook, on raconte tout. On va voir des psychologues et des médecins et on raconte tout. Mais combien les gens ont de mal à dire tout à Dieu, à se confier en Dieu, qui est de la plus grande bonté, de la plus grande écoute, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui répare, qui relève, qui guérit. Oui, mes amis, nous avons du mal à nous confier en Dieu. Alors il a ouvert l'ouverture, il a ouvert son cœur. Et Jésus lui donne une première parole. « Homme, tes péchés, ça commence bien la réunion. On commence à nous remuer le cœur avec les péchés. Ça nous gêne quand même de parler de péchés. On n'aime pas parler du mal qu'on fait. On parle du mal qu'on subit, mais pas que l'on fait à sa femme, son mari, aux voisins. Mais il continue. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que l'Évangile, c'est l'annonce du pardon des péchés. La rencontre avec Jésus, c'est un flash avec la vérité. La vérité de Dieu, la vérité de notre vie. C'est un flash quand on rencontre Dieu. Pas un flash qui nous aveugle. Dieu n'aveugle pas. Il est clair. Ce qui aveugle, c'est la nuit, c'est le diable, c'est le péché. L'apôtre Saint Jean disait, la nuit nous aveugle, mais la lumière ne nous aveugle pas. Et le Christ, quand il dit « tes péchés sont pardonnés », regardez comme il n'est pas à la recherche du coupable pour le punir. Il n'est pas teigneux, comme on dit. Il n'est pas comptable de nos fautes. Tu me dois ceci, tu me dois cela. Il nous parle, c'est un Dieu de bonté qui nous parle, qui partage tout. Tout est à vous, dira l'apôtre Paul. Il ne parle pas de nos péchés pour nous détruire, mais pour nous en retirer. C'est la bonté de Dieu. Cette bonté, mes amis, on n'en parle pas assez. On est dans une époque où la bonté de Dieu, ça fait sourire les gens. Parce qu'on voit des guerres, parce qu'on voit des enfants qui meurent de faim, etc., par la bêtise des uns et des autres. Mais la bonté a encore des beaux jours devant elle. Parce que dans les jours qui viennent, qui seront très difficiles, je pense que la bonté de Dieu continuera et que des hommes de bonne volonté continueront la bonté. Raoul Follereau, grand défenseur des lépreux, disait « Vivre, c'est aider à vivre. » Mais Jésus va plus loin. Il dit « Je donne ma vie pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance. » Homme, tes péchés sont pardonnés. Regardez comme le pardon du Christ n'est pas bavard. Il ne cite pas les péchés. Il ne cite pas devant les autres. Il n'humilie jamais personne. Il ne dénonce personne. Il dit simplement, tes péchés, tu les connais. Je les ai pardonnés. C'est un Dieu d'amour et de paix. Il y a des murmures dans l'assistance. On commence à se dire, mais quand même, qui c'est celui-là? Comment se fait-il qu'il pardonne? Il n'y a que Dieu qui pardonne. Ils n'ont pas tort. Ils ont totalement raison. Mais Jésus va prouver qu'il a le pouvoir de pardonner. Pardonner, ça veut dire remettre l'homme en marche, le sortir de son alcool, le sortir de sa dépression, le sortir de sa misère morale, physique. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est remettre l'homme en marche, c'est le retirer d'une citerne où il n'y a pas d'eau. Le pardon, c'est remettre des relations justes, agréables, avec Dieu et les autres. C'est ça le pardon. D'habitude, Jésus ne cherche jamais à prouver. Il dit toujours, crois seulement. Crois et tu le verras s'accomplir. Il dit simplement, vous me voyez, je suis avec vous tous les jours. Il ne cherche jamais à prouver, comme un scientifique, un et un font deux. Il dit simplement, je suis là. Si par exemple, moi, je voulais vous prouver que j'existe, est-ce que ça vaut la peine? Comment je vais faire pour vous prouver que j'existe? C'est pas la peine, puisque vous me voyez. Vous m'entendez, vous me voyez, je vais vous serrer la main, je suis en chair et en os, rien à prouver. Mais ce jour-là, il a voulu prouver qu'il était celui qui allait faire bondir le cerf, comme dit le prophète Ésaïe, bondir cet homme. Vous savez que la paralysie, c'est terrible. J'ai entendu parler d'une jeune fille qui s'est fracturée des vertèbres et qui ne pouvait même plus se laver les dents, qui ne pouvait pas manger, qui ne pouvait pas se laver, se s'habiller, rien faire, même pas se laver les dents. Paralysie, on est dépendant. Il n'y a pas d'avenir où on peut s'épanouir en être humain. Jésus veut prouver qu'il a le pouvoir de pardonner et de faire vivre. Parce que le pardon et la vie sont liés ensemble. Quand il y a du pardon, il y a de la vie. Quand on pardonne à sa mère, à ses enfants, à son mari, il y a de la vie qui renaît. Sans pardon, la vie est bloquée. On n'avance plus. Et s'il pardonne, c'est pour faire vivre le paralysé. Lève-toi, dira Jésus, pour que vous sachiez que je pardonne. Regardez, lève-toi. Jamais j'ai vu ça dans l'Évangile. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. va dans ta maison. Ça ne veut pas dire va dans ton immeuble au troisième étage à droite, ou va dans ta maison là-bas avec des colombages. Ta maison dans la Bible, c'est ta famille. Va vers ta famille qui t'a porté, qui a pleuré, qui t'a aidé, peut-être qui t'a abandonné. J'ai connu des femmes qui étaient atteintes de cancer et le mari partait. J'ai connu des gens qui avaient des épreuves, des deuils, et le mari partait. C'est terrible, on se demande dans quel monde on est. Alors il dit, cet homme, il dit Jésus, va dans ta maison, c'est-à-dire retourne dans ta famille. Il reconstruit la famille, il redonne de l'équilibre dans la famille, il renvoie vers la vie. Quand on va à la rencontre du Christ, on rencontre les autres. Une femme un jour a rencontré Jésus au bord d'un puits et Jésus lui a dit, appelle ton mari. Mais elle avait 5 maris. Appelle ton mari. Il veut reconstruire sur des bonnes bases la famille. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer à nouveau sa famille. Une famille. Et l'Église est une famille. Femme, voici ta mère. Jean, voici ta mère. Pardon. Et femme, voici ton fils. Il construit la famille. Le paralysé s'est approché de Jésus. Il s'est approché à nouveau de sa famille et de la vie. Il y a un petit conte juif, très joli. Je terminerai par ce petit conte. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la journée de la déportation. Déportation des Juifs dans les camps de la mort polonais. Nous sommes attachés à Dieu par un fil. Et parfois, quand nous faisons une faute, un péché, le fil se casse. Mais Dieu, dans sa grande bonté, renoue le fil. Et quand on renoue le fil, on fait un nœud et il y a moins de fil. Hein. On monte, on refait encore quelque chose qui ne va pas et le fil se casse 2 fois. Et Dieu renoue et le fil est toujours de moins en moins long. Et on se rapproche comme ça de Dieu par les pardons qu'il nous donne. Par les pardons qu'il nous donne. C'est quelque chose d'étonnant. La miséricorde de Dieu nous a rapprochés de Dieu. Nos fautes pardonnées nous ont rapprochés de Dieu. C'est étonnant. Mais c'est ainsi. Et ceux qui sont parfois très loin, comme cet homme que nous allons rencontrer samedi avec les jeunes, qui a connu la tôle, comme il dit, qui a connu la violence, ça s'est coupé le fil, et Dieu a renoué, et il a rapproché cet homme qui est pasteur aujourd'hui, il l'a rapproché de lui. Je ne dis pas qu'il faut commettre des fautes pour être proche de Dieu. Quand on découvre Dieu, on peut s'en approcher de jour en jour sans commettre des crimes et des violences, bien sûr. Je voudrais terminer en vous disant, partez à la rencontre du Christ. Vous le rencontrerez. Parce que en partant à la rencontre, lui-même va tirer sur la corde et vous attirer à lui. Il va vous aimer, vous révéler ce qu'il est. Je vais conclure avec une pensée. Il a fallu un miracle pour prouver que Jésus pardonne. Et quand il y a eu le miracle, ils ont dit, oh, ben oui, il pardonne, oui. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme pardonne, lève-toi. Il a fallu un miracle pour prouver qu'il pardonne. Il a fallu un mystère pour qu'il nous pardonne. Ce mystère s'appelle la croix. C'est un mystère. Il a fallu cette descente aux enfers, porter le péché du monde pour qu'il nous pardonne. Mais aujourd'hui, la nouvelle, elle est à vous, dont la conscience peut-être est secrète et chargée, à vous qui avez un cœur brisé. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Allons à sa rencontre. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Quelques instants. Seigneur, à quel hôte irions-nous, nous qui sommes paralysés dans nos vies, tournant autour de nous, de notre vie, sans jamais partir dans un épanouissement de notre existence. À quel autre irions-nous ? C'est toi qui as les paroles qui font vivre, paroles qui ressuscitent les morts, les morts vivants que nous sommes parfois. Seigneur, nous allons vers toi cet après-midi pour que tu ressuscites chacun de nous avec une parole de pardon, une parole de paix, de réconfort, d'amour. Merci Seigneur pour cette histoire. C'est notre histoire. Nous sommes le paralysé et nous sommes tous sous tes regards. Merci Seigneur. Amen.